Bonjour, on se retrouve pour un nouveau rendez-vous, c'est les experts sur Care News, et là, en guise d'experts, on va être servi parce que ce sont des grandes gueules, alors là, je peux vous le dire. D'abord, on va faire le tour dans le sens des aiguilles d'une mouche avec Félix Delaunay, ensuite Gilda Kerboul et puis Hervé Bronstein. Bonjour à tous.
Bonjour.
Hervé Bronstein est plus timide là quand c'est devant un micro, quand c'est sur le clavier. Hein, voilà. On va faire un tour d'horizon, d'actualité. On va évoquer tous les sujets que vous avez envie d'évoquer. Bon, on va peut-être commencer directement, Félix. Est-ce qu'il y a en ce moment, actualité ou pas actualité, peu importe, un sujet que tu as envie de nous faire partager ?
Actualité, puisque ça concerne tout le monde au quotidien, mais pas actualité de ce qu'on entend actuellement dans les médias, c'est toute la numérisation du monde. Tout ce qui est par exemple les hotlines ou les services que ce soit privés ou publics où en fait on doit aller sur internet pour se connecter, avoir les informations et dès qu'il y a un couac on essaye de joindre une hotline ou quelque chose et en fait il n'y a plus personne.
Quand ton fournisseur internet ne fonctionne plus, t'appelles, on te dit allez sur www pour avoir la solution.
Ouais, c'est ça.
Je sais pas, moi je suis pas digital du tout.
Ben voilà,
mais alors il est sur les réseaux sociaux du matin au soir.
Non, et quand tu as un problème, tu veux installer la fibre, t'arrives pas à installer la fibre, t'appelles le service client, t'appelles le service technique, ils viennent, ils prennent rendez-vous, tu prends une demi-journée, ils sont pas là. Le jour où ils viennent, ça marche pas. T'essaies d'avoir un interlocuteur, que ce soit à titre pro ou à titre perso, t'y arrives pas.
C'est vrai qu'il est grande gueule, hein. Il est pas content.
Non, mais ça, c'est non, un mais vrai attends, sujet.
C'est urgent.
On peut plus rien.
Temps, et j'en reviens à un article que vous avez fait dans La Bol Plus. C'est sur l'évolution de la technologie et des jeunes au travers de d'internet et comment l'homme devient totalement mécanique.
Esclave, et c'était un
très beau sujet que vous aviez fait.
On est en train de devenir des formes d'esclaves du 21e siècle, de la donnée. Notre maître s'appelle c'est la data.
Data. Bah, j'étais au téléphone ce matin avec une mutuelle et la première chose qu'elle me dit, je ne suis pas une machine, je suis un être humain. J'ai dit, ah bah, très bien, ça me fait plaisir, j'ai quelqu'un.
C'est vrai, la mutuelle.
Et après, au bout d'un moment dans la discussion, elle dit non, mais je peux pas répondre à cette question, faut envoyer un email. Je peux pas répondre à cette question, faut envoyer un formulaire. Je peux pas répondre à cette question, faut envoyer un recommandé. En fait, très vite, l'humain est bloqué, il est limité dans ses possibilités, et en fait, il faut repasser par d'autres réseaux, tout numérique. Et on passe un temps infini là-dessus. C'est incroyable, et on n'a pas la réponse, ça avance pas, quoi.
Effectivement, ne pas avoir Internet et avoir une personne en ligne, hotline, est impossible à avoir et on n'arrive pas à communiquer avec un être humain, quoi que vous l'ayez eu, en direct, on ne peut pas discuter. Et donc, de toute façon, il nous retourne toujours vers Internet.
Mais il y a 40 ans, il n'y avait pas ça. Il y avait des agences locales avec des boutiques.
Il y a 40 ans, Félix, tu n'étais pas né.
Si, je tenais.
À peine.
Je n'étais pas très grand, mais. Mais en fait, il y avait. Le monde fonctionnait. Enfin, je veux dire, on avait accès à tous les services, mais. Il n'y avait pas toute cette difficulté. Et puis, comme tu disais aussi, il y a certaines personnes qui n'ont peut-être pas l'accès au numérique. Et comment ils font, eux, pour trouver des informations ou pour régler un problème ?
Nous sommes d'ailleurs dans une ville, où effectivement, il y a beaucoup de personnes âgées. Et on en discutait ensemble, beaucoup de personnes âgées ne savent pas se servir d'Internet. Je prends l'exemple de ma mère qui est assez âgée. Elle connaît très bien Internet parce qu'on l'a toujours amenée à évoluer vers l'Internet. Mais il y a plein de personnes âgées qui ne savent pas se servir de cela.
Oui, mais est-ce que les jeunes ne sont pas aussi perdus aussi ? Est-ce que les jeunes de 20 ans, 25 ans n'ont pas aussi un peu ras-le-bol ? Peut-être qu'ils ne sont pas perdus, mais j'ai vu des jeunes piquer des coups de gueule parce qu'on leur dit « faut toujours le code, le ceci, le cela ». Ils en ont un peu marre, même s'ils sont nés avec ça.
Ils ne connaissent pas autre chose. Ils sont connectés dès l'adolescence.
En fait, on est conditionnés, je pense. C'est ça, on se fait à tout.
Mais nous sommes conditionnés. Eux, les jeunes, ils ne sont pas conditionnés, ils sont nés avec.
Ouais,
en fait, ils savent tout, bien avant nous. Moi, j'ai 48 ans. Eh ben, mon fils, il sait se servir d'Internet depuis toujours. En fait, j'ai même pas compris comment il a su se servir d'Internet. Parce qu'il est devenu une personne connectée dès son enfance, dès son plus jeune âge. Non ? Et nous, nous sommes des vieux ringards, ouais, entre guillemets.
Alors là, c'est presque un conflit de génération.
De 40 ans, voilà, les quadras.
Les quadras, mais c'est presque un conflit de génération. Tu parlais des personnes âgées qui n'ont jamais été formées ou qui ne peuvent pas forcément y accéder. Quand tu as des services qui te disent que ça se passe que par des applications, est-ce que tu sais télécharger une application ? Et en fait, ça fait qu'il y a plusieurs sociétés dans la même société, ceux pour qui c'est facile de résoudre des problèmes et d'autres qui n'y arriveront même pas.
Hervé.
Oui.
Il est... Alors lui,
non, je regarde les smartphones. Non, mais
il est connecté.
Non, mais tout à l'heure, t'as dit un peu. Tu disais que avant le monde fonctionnait, et je pense que c'est ça aussi, c'est que les services dont on est utilisateur ne fonctionnent pas. Et quand t'appelles une hotline, c'est pour gueuler. Donc les gens, ils ont pas envie de se faire engueuler.
T'imagines le boulot que ça a. Tous les jours, ils ont que des problèmes.
Mais c'est une horreur pour eux. Donc ils ont pas envie. Donc tu fais un formulaire pour ci, tu fais un mail pour ça. Et comme ça, ils en prennent pas plein la tronche à chaque fois qu'ils décrochent.
C'est un peu comme certains métiers, comme la police ou les médecins. Tu vas les voir quand t'as des problèmes. Quand tu vas bien, tu vas pas les voir. Mais le boulot, ceux qui sont sur les hotlines, sur les plateaux, ils arrivent au boulot, qu'est-ce qu'ils vont gérer ? Que des problèmes, quoi. C'est vrai que ça doit pas être...
Dans le sujet qu'a lancé Félix, il y a en réalité deux sujets. Le premier, c'est la numérisation du monde avec la complexification pour ceux qui maîtrisent pas tous ces outils. Moi, j'avais compris un autre sujet. La numérisation du monde avec nos données, le flicage, le fait qu'on soit repéré en permanence, qu'on connaisse nos fréquentations, nos amis, et tout ce que cela implique.
T'as des trucs à cacher ?
Non, mais c'est...
Alors, c'est une vraie question. On a tous quelque chose à cacher parce qu'on a tous un moment d'intimité dans notre vie. Ça veut dire qu'en réalité, qu'avec cette histoire... On va prendre un exemple qui va pas aller très loin. Offrir un bouquet de fleurs à sa maîtresse. Non, mais voilà, vous allez peut-être rire, mais offrir un bouquet de fleurs à sa maîtresse, c'était quelque chose. Avant, vous alliez prendre avec votre argent. Maintenant, c'est plus possible. Ça s'appelle la zone d'intimité auquel chaque citoyen a quand même droit.
Je ne répondrai pas, ma femme peut écouter l'émission. Joker.
Mais c'est un fait. Même
il est tellement amoureux que qu'elle se rassure, Sabine, qu'elle se rassure.
Mais effectivement, c'est un fait. Par exemple, sur Facebook ou n'importe quel, où on a commencé, nous, vieux bonhommes, et jeunes quand même, à être sur Facebook, on a commencé dans les années 2000, début 2000. Mais
c'est
en
ça
fait,
que c'est un truc de vieux, Facebook. Hein.
Oui, mais sur Facebook, il y a un inventaire qui est marqué. Depuis que nous avons pris Facebook, il y a de cela 20 ans, 25 ans. Et donc, en fait, on peut retracer toutes nos ex-compagnes, on peut tout retracer. Ouais. Et c'est ça qui est terrible, en parce fait, qu'on peut tout retrouver.
Et nos opinions politiques ?
Évidemment.
Ça, il faut jamais en parler.
Les images rigolotes là, que tu likes ou que tu likes pas.
Il n'en parle jamais, lui. C'est ça.
Et en fait, les jeunes, ils sont là, mais c'est pas grave, j'ai rien à cacher. Mais en fait, s'il y a besoin de savoir, on sait tout. En fait, on est dans une transparence totale. Et on n'a pas les tenants et les aboutissants. Ça me fait rebondir sur Doctolib. Doctolib, c'est pareil. Doctolib, ils ont la mainmise sur le système de santé. Ils savent tout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, financièrement, ça va bien. Demain, il y a un problème financier. Qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vendre leurs données, par exemple, aux banquiers. Et tu vas arriver à la banque, tu dis, je voudrais un emprunt. Et là, le banquier va avoir une petite lumière rouge à côté de ton nom. Et en fait, tu vas pas pouvoir avoir d'emprunt parce que tu aurais été voir un cardiologue dans les 3 mois précédents.
Bien sûr.
Et aujourd'hui, ils disent, vous inquiétez pas, on ne vend pas. Mais attends, c'est une société privée. C'est pas l'assurance maladie. L'assurance maladie, qu'ils aient tout. C'est normal, c'est l'État. Mais une société privée qui puisse avoir accès à tout, nos rendez-vous, tout, c'est pas normal.
Et sans parler de santé, mais... mon cher Yannick, on pourrait remonter jusqu'au RPR et à Jacques Chirac. Et vous-même, ne voudriez peut-être pas que ça se sache, enfin, que vous avez travaillé pour telle ou telle personne, que moi j'ai travaillé pour telle et telle personne, mais comme vous dites, on peut remonter sur tout, même sur des parties ou des choses comme ça qui pourraient paraître un peu de la vie personnelle, mais qui pourraient effectivement être embêtant parfois.
Mais derrière tout ça, est-ce que la vraie question aussi qui se pose quand on dit on n'a rien à cacher, est-ce que personne n'est à l'abri que demain il y ait un pouvoir qui soit réellement dictatorial, qui soit vraiment un pouvoir extrême qui prenne le pouvoir dans un sens comme dans l'autre, hein. On peut, voilà, un régime très autoritaire et qui se serve de ces informations qu'on a laissées comme
naïvement
dans la nature.
Ah, on a pris, c'est la liberté. En
prenons
fait,
l'exemple. En 1940, beaucoup de juifs ont été obligés de se cacher, de faire des faux papiers, de dissimuler leur condition avec des noms, empruntés à la résistance, comme plus connu, le connu Marcel Blostein-Blanchet. C'était Blanchet, son nom de résistance, alors que c'était Blostein. Bon, imaginons qu'il ait été avant sur Facebook et qu'il y aurait eu un Facebook avant qui garde toutes les traces et qui montre qu'il a été à la bar mitzvah d'un proche, etc. Les nazis retrouvent ça.
Non, mais c'est la traçabilité.
C'est la traçabilité. C'est pour ça que je parle de zone d'intimité. Et ça peut se produire dans un sens comme dans l'autre. Même un Staline qui arrive au pouvoir. Personne n'est à l'abri de cela. Pour l'instant, on n'en est pas là. Mais il faut penser à ça. Et je me souviens que la Ligue qui défend les libertés sur Internet avait été entendue en commission au Sénat par les sénateurs à l'époque où François Hollande était président, hein, par les sénateurs socialistes. Il dit, vous laissez tout cela, imaginons que demain il y a un régime dictatorial qui vient et qui s'empare de ces données. Qu'est-ce qu'il en ferait? La réponse des sénateurs socialistes à l'époque fait rire tout le monde. Savez, vous n'avez qu'à continuer de voter pour nous. Au moins ça. Il n'y a plus aucun risque.
Non, mais ouais. Bah, c'est rigolo et à la fois c'est triste parce que on n'a pas conscience de ce que c'est au quotidien que nos données soient partagées. C'est juste le jour où on va avoir un vrai problème ou que d'autres ces données sont partagées avec d'autres où là on se sent en fait observé, pris et privé de nos libertés.
Elles sont déjà toutes partagées. Là tu fais un test en direct, tu prends ton portable, tu te mets sur Google, tu fais une recherche sur un produit quel qu'il soit. Tu quittes Google, tu vas sur Facebook, tu as une annonce,
publicité de tous les annonceurs de ce
que tu as cherché apparaît, mais c'est immédiat, ça m'est arrivé hier soir. Donc c'est immédiat, j'ai vu un produit à la télé, j'ai regardé le prix machin, un quart d'heure après, j'avais tout sur mon fil d'actualité sur Facebook.
Comme mon numéro de sécurité sociale, je ne me rappelais pas par cœur des trois derniers chiffres, et ben Internet et la sécurité sociale et Doctolib ont trouvé mon dernier numéro. Je me suis dit, mais
t'as gagné au loto ou...
J'aurais bien voulu, mais c'est pas le cas. Mais effectivement, ils connaissaient mon dernier chiffre, mon dernier nombre.
Il y a un YouTuber, il a fait une expérience. Il prenait des photos dans la rue de gens et avec la reconnaissance faciale, il arrivait à leur retrouver leur compte Facebook et tout ça, et il arrivait, donc il filmait, et il arrivait devant la personne, il dit, vous êtes un tel, je vous connais, je connais votre école, je connais d'où vous venez, où vous travaillez. Et en fait, c'est ça la réalité, en reconnaissance faciale. Bon, après, il faut avoir des compétences en informatique, mais...
Enfin, des compétences.
Non, il faut avoir les outils, les bons outils, c'est tout.
Ce sont les bons outils. Ça vous fait peur ou pas?
Non.
Moi, si.
En fait, je m'en fous. Je m'en fous.
Ah non,
parce que si j'ai un truc à cacher, je vais pas aller le mettre sur Facebook. Donc,
non. Oui, mais en fait,
j'ai passé l'âge.
La géolocalisation de ton portable est automatique.
Je m'en tape. Mais un jeune qui a 25 ans,
non, je suis pas d'accord.
Il va mettre des trucs sur sa page Facebook. Dans 20 ans, il peut regretter de les avoir mis. Moi, je vais avoir 57 ans. J'ai rien à cacher, je me tape de ce que les gens peuvent découvrir de moi dans 10 ans.
Tu as dit une phrase, Hervé, très importante. Tu as dit, ce que j'ai à cacher, si j'ai des choses à cacher, je ne les mets pas sur Facebook. Mais es-tu en mesure de savoir ce que demain, des choses pourront être interdites, pourront être punies, et qui sont légalisées aujourd'hui ?
Non,
qu'on aura peut-être à cacher demain et qui ne seront plus cachables. Qui ne seront plus cachables demain. Mmh.
Que tu mets que tu as mis ta maison à 21 degrés au lieu de 19.
Ah. En fait, quelque part, on n'a pas besoin de. Enfin, ce qui est terrible, c'est de se dire on aurait des choses à cacher, mais on n'a rien à cacher. Si on est honnête envers nous-mêmes ou envers les autres, on n'a rien à cacher.
Je parlais de la zone d'intimité.
Mais la zone d'intimité, alors, si elle relève de. De quoi la zone d'intimité, c'est de faire des bêtises avec sa femme. Malheureusement, je suis divorcé, donc c'est
j'ai
pas
pris
grave.
L'exemple d'offrir des fleurs à sa maîtresse.
Bah, d'offrir des fleurs à sa maîtresse. Aussi, je me rappelle d'une anecdote où un jour, j'ai envoyé très bêtement un texto à mon. En plus, c'était via Internet, à mon ex-femme, et je lui avais marqué. Tu me manques, je t'aimerai pour la vie. Mais c'était pas du tout en vis-à-vis de ma nouvelle femme. C'était tout simplement de dire qu'elle avait compté pour moi. Et elle avait compté pour moi. Ah, t'as fait la même chose.
Ah non, non.
Qu'elle avait compté pour moi, c'est tout. Non. Et ceci étant, c'est devenu pas public, mais ma femme l'a su ou l'a vu, puisqu'elle a fouillé quand même dans. Ordinateur. Et donc, du coup, elle a découvert ça. Mais ça a relevé de l'intimité. Mais après, en même temps, c'était pas de l'intimité réellement. C'était juste signifier quelque chose dans un
contexte.
Dans un contexte spécial. Voilà. C'était pour son anniversaire en plus. Donc, bon. Et j'avais dit qu'elle a compté pour moi. C'est pas qu'elle que je l'aimais toujours.
Oui.
Ça n'a rien à voir. Mais c'est ça, en fait, l'intimité. Alors, en fait, comment définir l'intimité? C'est quoi?
Comme disait Einstein, tout est relatif.
On est un bon philosophe, là.
Oui,
hein,
voilà.
On va finir là-dessus, sur cette partie sur la numérisation du monde. Les experts sont sur Care News et on parle librement d'actualité ou pas de l'actualité, de tout ce qui vous préoccupe. Si vous avez envie de venir dans le studio, vous m'envoyez un mail à l'adresse studio@carenews.com et vous serez les bienvenus. Félix Delaunay, Jlascar Boul et Hervé Weinstein sont autour de la table. Vous aviez envie de parler, là, on m'avait dit.
J'ai dit vous.
Il a dit.
Oui, mais c'est ton idée.
Non.
Des LR.
Les LR.
Les le parti politique.
Anciennement UMP, anciennement
RPR. et futur, on ne sait pas, en fait. On ne sait pas. Parce que, non, c'est juste que. Il y a l'élection du président des LR qui est en cours.
Donc là, il y a le Vendéen ou le sudiste.
Voilà, on va avoir Fernandel ou le curé. Et on va avoir. C'est qui c'est le curé?
Ah, et Fernandel.
Le curé de Vendée et le Fernandel de Nice. Et me faire tuer. Non, mais c'est pas ça. Mais par personne. Le truc, c'est que on avait, il y a quelques 5, 6 ans, 7 ans.
Puis qu'il y avait je l'ai dans la tête.
C'est ça, oui. J'aurais
jamais dû.
C'est les dents qui font ça. On avait LREM avec M. Macron. Et puis on avait les LR avec anciennement Sarkozy. Et puis, voilà. Et puis aujourd'hui, les LR, ils veulent aller. Travailler avec Macron. Donc, c'est-à-dire qu'il y a quelques mois, on a voté soit on pouvait voter Macron, soit on pouvait voter LR. Et en fait, si on a voté Macron, on a voté Macron. Si on a voté LR, on a voté Macron.
Non.
Aujourd'hui, on en
non,
est là.
Non. Moi,
aujourd'hui,
je ne vois pas ça comme ça.
Et donc, je termine juste. Après, les gens vont pleurer en disant on fait monter l'extrême droite. Mais c'est manipulations qui font monter l'extrême droite. Et l'extrême droite d'hier. Va être en fait la vraie droite de demain. Et puis, Macron, LREM et les anciens LR qui ont migré vont devenir le centre.
Non. Moi, je pense que Ciotti remportera contre Bruno Retailleau. Et Ciotti ne se présentera pas à la présidentielle, mais en fait va être le pilier ou le bras gauche ou le bras droit de Laurent Wauquiez, qui se présentera, lui, à la prochaine présidentielle contre Macron, Probablement, il y a des chances, même si,
non, la Constitution,
même si, même s'il n'a pas le droit de le faire. Bah, le ceci
il
étant,
Poutine, si, il en 2032, si, ouais, il se prépare déjà. Non, mais il se prépare déjà.
Ah non, mais
l'entourage dit qu'il se prépare pour 2032.
Si, oui, c'est ça. Ils mettront Édouard Philippe entre temps.
Ah non, mais s'il dissout l'Assemblée, il demande une autre élection. Il n'est pas élu, et puis dans ce cas-là, ça veut dire qu'il peut faire un nouveau mandat.
Ouais.
Et voilà. Il y a un flou dans la réforme de la Constitution.
Exactement.
Qui dit qu'il n'a pas le droit de se présenter pour un troisième mandat, sauf s'il a démissionné. Enfin, il y a
on
un
est bien flou d'accord.
Juridique.
Il y a un flou juridique.
Il a fait, enfin, je veux dire, voilà, il a mis Medvedev pendant 4 ans.
On ne va pas comparer pour Macron.
Il a mis Medvedev
quand même.
Pendant 4 ans.
Non, pas encore.
Non, parce que Macron, il est quand même élu par les Français.
Bah, les Poutine aussi, lui, par les Russes.
Enfin, les élections aussi.
Oui, bon, et alors
donc, moi,
alors,
je prévois ça.
Moi, je suis ni gauche ni droite.
Passe président du groupe LR. Il soutient Laurent Wauquiez. Laurent Wauquiez se présente contre...
Tu mets combien sur la table, là, pour
qui
parier
sera, qui sera jamais élu.
Parce qu'on a des paris comme ça.
Alors, tu vois Laurent Wauquiez président de la République?
Non.
Non, mais non, il n'a pas
de carrière. Il tente.
Oui, voilà.
Candidat, oui, mais pas président.
Alors, attendez.
Ah, j'ai pas dit... Président, j'ai dit candidat.
T'as, on reparle des LR.
Rotaillot.
Les LR, ils ont une opportunité unique, unique en ce moment. Et en fait, je suis même pas sûr qu'ils en ont conscience.
Ah, c'est un peu le problème.
Non,
ils sont conscients de rien.
Bon, t'as le PS, avant, t'avais le PS et les LR. En fait, bon, c'est, la politique, c'était simple. T'étais de droite ou t'étais de gauche. Maintenant, c'est, tout est compliqué. T'es soit d'extrême droite parce qu'on nous dit extrême droite, soit t'es extrême gauche parce qu'on nous dit c'est extrême gauche, ou soit on nous dit t'es du centre avec, on sait pas si c'est vraiment du centre puisque c'est l'ultra-capitalisme du Macron. Et en fait, quand ils font les élections là, à l'Assemblée nationale, en fait, on voit bien que NUPS plus RN, ça fait pas la majorité. Et donc, t'as les macronistes et donc les LR qui, ensemble, sont capables d'avoir la majorité. Donc, le vrai décisionnaire dans l'histoire, c'est les LR. C'est comme si tu avais une entreprise où tu as deux associés, ils se disent, écoute, on va monter une entreprise. Toi, tu vas prendre 49% des parts. Moi, je vais prendre 49% des parts. Et on va prendre quelqu'un qui va prendre 2% des parts au cas où on n'est pas d'accord.
Alors, dans ce cas-là, je mets une part et je rectifie mon propos. Pas Wauquiez, en fait, il prend République En Marche et LR. Et qui était LR et qui a été République En Marche et Premier ministre?
C'est Édouard Philippe. Mais j'ai dit tout à l'heure. Mais ce que je veux dire, celui qui a 2% là, dans l'association, 49 plus 49 et 2%. Okay. En fait, ils sont, admettons, tu es dans...
Mais le 2%, c'est le faiseur de roi.
Exactement. Et aujourd'hui, le faiseur de roi, c'est qui? C'est LR. Et en fait, ils ont le vrai pouvoir et ils le savent même pas.
Ils le savent.
Si, si, ils le savent.
Tu crois qu'ils le négocient? Ils négocient. Attends, moi, je veux mes postes de député, je veux mes avantages, mes machins, des trucs. Tu crois qu'ils le savent?
Mais oui, parce qu'en plus...
Ils le savent, mais ils peuvent pas faire autrement. Imagine Macron dissout. Il y a une dissolution.
Ils n'existent plus.
Voilà, ils le savent.
En fait,
il y a des bons députés de terrain chez les LR. Ils sont
partout.
Des bons députés.
Il y a des bons partout.
Voilà, dans tous les camps, c'est ça. Mais ils vont être noyés par l'étiquette. On parlait des LR. Alors, quel avenir pour les LR? Rien, c'est ça?
Aujourd'hui, une dissolution, ils n'existent plus.
C'est la fin du petit cheval, la mort du petit cheval.
Mais
il y en a qui le souhaitent, je suppose. Même au sein des LR.
On parle de la France, mais ici, à la Baule, il y a un petit souci quand même avec les LR, les différents candidats. Je n'irai pas là-dedans, mais effectivement, il y a République En Marche, LR, Centre Droit, divers droites, et en fait, tout le monde se tire un peu la couette vers soi. Et donc, en fait, le problème national que nous avons,
il est
aussi municipal quelque part.
Non. Le problématique qu'on a ici, c'est pas la même problématique que la France entière, ça n'a rien à voir.
Au travers du jeu politique, sur la Baule, je ne sais pas. Bon, je ne me lancerai pas dans le
jeu. Tu es libre.
Non.
Alors, tu es libre. Alors. Je vais inverser, on a parlé de la Baule. Il y a Saint-Nazaire aussi, par exemple. On nous écoute beaucoup à Saint-Nazaire et nos amis nazériens. Bon, Saint-Nazaire a toujours été historiquement une ville plutôt cataloguée à gauche. On a vu, par exemple, David Samsa, le maire de Saint-Nazaire, il a reçu récemment Bernard Cazeneuve, qui lui prône le retour à une social-démocratie. Enfin, on retourne à un PS de gouvernement. On n'est plus dans l'excès, hein. Voilà. Est-ce que ça peut être une carte à jouer? Est-ce que peut-être, les Français vont se dire, entre les deux extrêmes, on arrive peut-être à une impasse, c'est de la confrontation permanente, il manque une sorte de parti de gouvernement, et finalement, est-ce que Bernard Cazeneuve, je dis son nom parce qu'il est venu dans la région, ou quelqu'un comme Bernard Cazeneuve, peut incarner une opposition.
Il manque une vision avec... Parce qu'on voit bien que le FN et les NUPS, ils ont des idées en commun. Pas tout, hein, mais ils ont des idées en commun. Et il n'y a personne qui regroupe ça.
Il n'y a que l'immigration qui les divise.
Exactement. Exactement.
Il n'y a que l'immigration qui les divise.
Par contre, sinon, sur beaucoup d'autres sujets, ils sont d'accord. Et c'est là où tu te dis pourquoi. Enfin, il manque un parti, en fait.
En fait, je pense que le français n'est pas comme l'allemand. Par exemple, la CDU et la SDE s'entendent parfaitement, cohabitent ensemble au Parlement, au Bundestag, en Allemagne, et s'entendent parfaitement. Cohn-Bendit, malgré son côté écolo, s'entend très bien avec les gens de droite, et la CDU est députée pourtant écologiste en Allemagne. Mmh. Et effectivement, en Allemagne, c'est possible de coaliser la gauche et la droite.
En fait, ils coalisent des idées, en fait.
Plus que des... Est-ce que ça veut dire que si on était...
Ou un programme...
une vision.
Où une vision, tout à fait. Où chacun prend un peu de l'un et un peu de l'autre. Mais nous, en fait, dans nos partis politiques, c'est...
Tout l'un ou tout l'autre.
C'est noir ou blanc.
Et ça, c'est un peu dommage.
Et c'est ça qui est dommage. On ne peut pas faire un melting pot d'idées et créer un parti un peu... Ce qu'a tenté d'ailleurs Macron. Ni gauche, ni droite. C'est le ni-ni. Effectivement.
Ni gauche ni droite, mais oui pour l'ultra-capitalisme.
Oui, bon, ça, il ne faut pas le dire.
Effectivement, si on était dans un mode à l'allemande, on va peut-être finir là-dessus, ça voudrait dire dans un mode à l'allemande, si la NUPES propose quelque chose de bien, bah, tout le monde vote pour la NUPES, se pose pas de question d'être en opposition permanente. Si le Rassemblement national a une proposition qui peut aller dans le bon sens, la NUPES pourrait voter pour. C'est ça.
Ben, j'avoue que je suis.
Alors là, on fait d'accord. Semblant ben, de dire ce sont des ennemis, on doit voter.
Je préférerais que ce soit les LR, les En Marche et le Parti Socialiste qui a rejoint les NUPES qui crée un mouvement un peu centriste. Voilà, tout à fait.
Le mouvement centriste, c'est Édouard Philippe.
Anciennement UDF.
C'est Édouard Philippe.
Et je suis bien d'accord.
Il s'appelle Édouard Philippe.
Je suis totalement d'accord.
Ouais, oui, mais moi, je ne suis pas d'accord. Parce que la nationalisation n'aura pas
le temps. Est-ce qu'Édouard Philippe sera le Valéry Giscard d'Estaing du XXIe siècle?
Possible. En plus, il a un petit peu...
Pour ça.
Un certain profil...
il plaît aux jeunes et aux vieux.
Et puis, il ressemble un petit peu quand même à Valéry Giscard d'Estaing, un grand homme assez élégant, etc. Je ne sais pas s'il est polytechnicien comme Valéry Giscard d'Estaing l'était, mais... Non, c'est pas forcément une qualité.
Ce rêve de
polytechnicien, mais un petit peu.
Ouais, mais tu vois.
Trois Français sur quatre.
C'est pas trois Français sur quatre. Parce que quand t'as la NUPES et que t'as le FN, t'as quand même une masse de personnes qui sont pas d'accord avec ce qui se passe. Et eux, que ce soit PS, UDF ou LR, ils sont contre, en fait. Que ce soit à droite ou à gauche. Ils veulent autre chose, un autre monde. Et tu vois, on parle de Total et la SNCF, EDF, Orange, pourquoi pas les nationaliser? Tu vois, c'est des idées que jamais ça arrivera à l'UDF et que sur les extrêmes, que ce soit droite-gauche, ça c'est une idée qui peut avoir du sens.
Voilà,
dit-il, en claquant des claquement de doigts, un petit côté autoritaire quand même. Hein, on est bientôt prêt pour la dictature.
Oui, attends, c'est quoi la dictature?
En 81, il a bien tenté les nationalisations, ça n'a pas marché. Non, l'étatisation, et ensuite la nationalisation.
Et alors, pourquoi pas?
Bah, oui, mais
quand tu vois des super profits total, les intérêts et comment l'État envoie ses VRP, c'est-à-dire nos ministres, essayer de négocier dans les pays partout dans le monde, en fait, c'est un intérêt, c'est un intérêt stratégique à la France, des entreprises comme Total. Comme la SNCF, comme Orange.
Eh bien, voilà pour ce chapitre. Bref, pas d'avenir pour les LR. Vous êtes d'accord, c'est ça ce qui ressort?
Non.
Ah non, d'accord. Okay.
Non. Ils existent aujourd'hui parce que, en fait, c'est eux qui, comme tu as dit, ils sont créateurs de rois. Ouais. C'est eux qui font la bascule.
Ils ont le pouvoir de nuisance.
C'est ce qui est le plus important. Mais, bah oui, c'est toujours ça. Et nos experts avec autour de la table Félix Delaunay, Gilles Lascarvoul et Hervé Bronstein.